France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour. À sa sortie en 2007, ce film, réalisé par Sean Penn, nous fait redécouvrir la pensée de Thoreau et les écrits de Jack London. Entre retour aux sources et invitation au voyage, Into the Wild fait entrer les grands espaces dans les salles obscures, déploie sur grand écran les beautés de la nature et nous rappelle qu'une autre manière d'habiter ce monde est peut-être possible. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous voulions revoir avec vous l'histoire de Chris McCandless, jeune Américain en quête d'absolu, qui va tourner le dos au confort matériel, rompre avec sa famille, la ville, le monde dit civilisé, qui rêvait d'Alaska, traversa la Californie, travailla dans les champs de blé du Dakota, descendit le Colorado en canoë avant de mourir empoisonné. On est en 1992, il a alors 24 ans. Il est incarné à l'écran par l'acteur Emile Hirsch. Écrit par John Krakauer en 1996, adapté par Sean Penn au cinéma en 2007, le succès du livre puis du film a fait de sa vie un mythe moderne, transcendé la figure aussi du routard en vagabond céleste. Pourquoi Into the Wild a-t-il changé une génération de spectateurs? Comment a-t-il réintroduit la nature et le sauvage au cœur de nos imaginaires? Quel récit enfin porte ce film? On est ensemble pour une heure de discussion sauvage, évidemment, qui ne pouvait commencer que comme ça.
There was a bookstore that I used to go to, sort of an outdoor bookstore. In Los Angeles, here in West LA.
Il y avait une librairie où j'avais l'habitude d'aller à l'ouest de Los Angeles avec un stand de poulet rôti en plein air. J'avais l'habitude d'y aller flâner en attendant mon déjeuner et en achetant un livre de temps en temps. Et un jour, j'ai vu cette couverture. Le titre était Into the Wild. Maintenant, il y a une nouvelle couverture, mais il y avait cette photo en noir et blanc avec ce bus noir dans la neige blanche. Et je ne sais pas si c'était familier ou si ça a juste attrapé mon regard. Ce titre, Into the Wild, semblait fait par l'homme, et ça m'a attiré, et je l'ai acheté. Je l'ai ramené chez moi, et j'ai commencé à le lire, et j'ai réalisé que je ne lâchais pas. Je l'ai lu deux fois en entier sans m'arrêter. La première fois, je l'ai lu pensant que je lisais un livre. La deuxième fois, je l'ai lu rêvant que je faisais un film.
She just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land. She just smiled and laughed at me and took her bruise back again.
La voix du réalisateur Sean Penn racontant la genèse de ce film. Voilà comment il est né, ce Into the Wild, dans l'esprit en tout cas du cinéaste. Aujourd'hui, pour en parler, trois regards de cinéphiles. Cyril Dion, auteur d'un petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud, réalisateur de Demain et de Animal, en écriture d'une première série qui s'appellera We Will Be Heroes.
We Could Be Heroes.
We Could Be, oui, pardon. Claire Nouvian, militante écologiste, fondatrice de l'association Bloom, lauréate du prix Goldman et autrice de Abyss. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Cyril Dion, je ne sais pas si je vous ai salué.
Bien non.
Bonjour. Olivier Pourriol est aussi à nos côtés. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Philosophe, concepteur des séances cinéphilo pour le MK2, où vous faites converser cinéma et philosophie, scénariste aussi de Pour la France, le film de Rachid Ami, et de la bande dessinée La vérité sur Socrate, paru aux éditions Les Arènes. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. On va peut-être évoquer d'abord, pour commencer, quelques signes particuliers de ce film, Into the Wild. Qu'est-ce qui vous a marqué? Juste une chose, déjà, dans ce film, avant d'entrer dans l'analyse, la critique, un marqueur pour vous de ce film, Olivier Pourriol.
J'ai beaucoup aimé que la dernière phrase qu'écrit ce garçon, qui taille en fait, qu'il laisse, le taille dans le bois, puis en fait il écrit dans les mais c'est même pas dans les marges d'un livre, c'est dans l'interstice entre les lignes et l'écran majuscule. Et il finit par cette phrase, alors qu'il est seul depuis un certain temps, que le bonheur ne vaut que s'il est partagé.
Claire Nouvian.
J'en retiens une expérience assez égocentrique, de recherche de limites, un vrai truc d'occidental, que j'ai trouvé, en fait, assez obscène, je crois.
Ça commence bien.
J'adore. Cyril Dion.
Moi, c'est la musique, parce que c'est une bande originale, notamment d'Eddie Vedder, qui est toujours le chanteur de Pearl Jam, que j'écoutais beaucoup quand j'étais ado.
Et
j'ai écouté la bande originale des milliers de fois, je pense.
Exactement, il a tourné aussi en concert, pas mal, avec cette bande originale, qui est assez remarquable et qui colle extrêmement bien au film. Il l'a conçu d'ailleurs pour et à la demande de Sean Penn. Une bande originale qui sera son premier album solo, récompensé de 2 Golden Globes et de 2 Grammy Awards. Alors, quelques autres signes particuliers, peut-être ce film dure 2h30, il a coûté plus de 32 millions de dollars, et c'est un Français à la direction de la photographie, et pas des moindres, le Français Éric Gauthier, qui a collaboré avec Assayas, avec René, avec Desplechin ou encore avec Chéreau, et que Sean Penn a repéré dans le road movie qui l'avait précédé de Walter Salles, Carnet de voyage, celui qui a réalisé le voyage qu'avait réalisé le jeune Che Guevara dans les années 50 à travers l'Amérique latine. Donc il avait retenu ces grands paysages aussi qui avaient été filmés à l'époque. 2 voix off, celle du protagoniste et celle de sa sœur Karine. Je crois que c'est quelque chose, un élément du film que vous avez, vous, apprécié, Olivier Pourriol, ces voix off. En tout cas, le récit de ce silence, de cette absence du héros par sa sœur.
La première fois que je l'ai vu à sa sortie, je fais de la pêche sous-marine. Enfin, je pêche plus. J'aime trop les poissons, maintenant il n'y en a plus assez. Mais j'avais trouvé qu'aller de manière aussi peu préparée dans la nature, c'était irrespectueux à la fois pour la nature, pour soi, parce qu'en fait il est mort très vite, et aussi pour ceux qui fréquentent la nature, qui y vivent en fait. Et je me disais, bon, quelle impréparation, dont je voyais que les défauts du personnage. Et là, en le revoyant, c'est sûrement d'avoir vieilli, puis d'avoir des enfants, et puis voilà, de penser aux relations humaines, à ce que c'est d'être parent, avoir des parents. Je me suis aperçu que le vrai sujet, c'était pas ça. J'avais cru que Into the Wild, ça veut dire partir dans la nature, alors que Into the Wild, j'ai vu un autoportrait de Sean Penn qui est rentré, lui, en introspection. Si on rentre dans l'homme sauvage, le sauvage au sens du rebelle, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on trouve? On voit qu'il a besoin de s'arracher à sa famille, à ce qu'ils incarnent. Et donc là, ça m'a touché, parce que j'ai compris plutôt ce qu'il fuyait et qu'il soit obligé d'aller aussi loin et d'en mourir. Ça m'a beaucoup touché. Et le fait que sa sœur soit finalement la voix principale, parce qu'elle, c'est la voix du manque, c'est la voix de... Il a quitté sa sœur, en fait. Il est parti en prison et il a emmené toute sa famille avec lui, parce qu'il les a détruits en partant. Et le fait qu'il y ait cette double voix, j'ai trouvé ça d'abord très difficile à écrire. J'ai admiré l'écriture du film, que j'avais pas aperçu la première fois. Et j'ai beaucoup aimé ce vide, en fait. Et le fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'ils s'aperçoivent juste avant de mourir que le bonheur, ça doit être partagé, ça dit l'échec de sa tentative solitaire.
Oui, c'est un regret. Et une réponse à Claire Nouvian, directement dans cette dernière formule, justement. Et lui-même s'est rendu compte, peut-être aussi, de l'égoïsme ou de l'individualisme de sa démarche et de son parcours. Mais on est déjà dans l'analyse. Je voudrais vous faire écouter à tous, surtout d'abord un extrait quand même d'Into the Wild, puisqu'on va en parler, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, des chapitres et des allers-retours dans le temps, une chronologie brassée. Le film s'ouvre sur la fin du voyage, puisqu'on y voit Chris devenu Alex en Alaska. Extrait.
Is there anybody here? Guess not! Ow! Ow, 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 ow! No cigarettes.
prosthetic Voyager, whose home is the road.
Hey, listen, old man, like, don't psychoanalyze me, all right? Shut up, I'm taking you out to where we're going.
Where are you going?
I told you, we're going nowhere!
For now, after 2 rambling years comes the final and greatest adventure. Climactic battle to kill the false being within and victoriously conclude the spiritual revolution.
Choisi de vous passer les extraits en version originale. Alors vous allez nous aider peut-être, et c'est une bonne chose, d'entendre la voix aussi des acteurs, et puis cette bande-son que vous aimez tant, Cyril Dion, peut-être Olivier Pourriol, dans les mots-clés de cette scène presque d'ouverture, où on le voit dans son minivan, dans ce magic car abandonné au milieu de l'Alaska, dans la grande steppe, en train d'écrire, de graver dans le marbre ces paroles-là. Puisque c'est la scène d'ouverture, qu'est-ce que vous entendez ? Liberté absolue, révolution spirituelle ?
Le mot liberté revient tout au long du film, et en même temps, on voit qu'il est prisonnier d'une fausse idée de la liberté, parce que c'est l'idée d'une liberté sans les autres. Et à la fin, ça va être son voyage aussi par toutes les personnes qu'il rencontre. C'est quand même un road movie avec le point d'arrivée dans ce bus. Moi, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que pour un aventurier, finir dans un bus, s'arrêter dans ce bus et ne plus pouvoir en partir, ça dit quand même quelque chose de l'échec annoncé de sa tentative. Il a besoin de la civilisation avec lui. Et au fond, il est victime. Et en même temps, il est enthousiasmé par ses lectures. Et il arrive ici chargé de livres, c'est des références littéraires, avec un rapport au monde qui est complètement livresque, puisqu'il vient d'être diplômé, c'est un jeune diplômé d'université. Il connaît rien à la nature. Et c'est ça qui est terrible. Et même, en fait, dans cette espèce de bus où il y a une espèce de canapé, même quand il conduit, il parle à des gens qui sont avec lui, il se trimballe avec l'image de son père, avec qui il s'engueule, il parle à sa famille. Il n'est pas venu seul. Je sais que j'aimais beaucoup cette phrase de Gilles Deleuze qui disait qu'on voyageait quand même pas pour le plaisir, on était cons mais pas à ce point. Bah lui si en fait, et il dit que quand il voyage avec ses valises. Être vraiment voyageur, c'est ne pas venir encombrer de ce qu'on est, s'ouvrir à quelque chose qu'on n'est pas encore. Mais il finit par le dire plus tard dans le film, donc ça c'est son point de départ on va dire. Et toutes les personnes qu'il rencontre, il rencontre un vieil homme qui veut l'adopter comme grand-père. Et il lui dit, voilà, tu vois, et ça m'a touché, parce que en 2007, c'est pas des choses qu'on entendait, maintenant on les entend plus. Il disait, voilà, tu vois, il n'y a pas que les relations humaines, en fait, dans la vie, et tu peux avoir des relations avec autre chose que les humains. Et je trouve que cette proposition de révolution spirituelle, ça passe pas par les livres, ça passe par l'attention, ça passe par l'attention à ce qui l'entoure, et même s'il est très maladroit, même si on peut lui reprocher son impréparation, il finit par avoir un rapport à ce qui l'entoure qui est très beau.
Cyril Dion.
Moi, j'entends son moment de folie, c'est-à-dire qu'il est, il est au milieu de rien du tout. Et effectivement, il a besoin de convoquer d'autres présences. Il est parvenu au bout d'une sorte de voyage déjà. On le sait pas encore au début du film, mais qui est une, enfin moi, qui me touche beaucoup parce que j'y vois la Beat Generation. Enfin, on peut pas s'empêcher de penser à Kerouac, à Sur la route, à toute cette cette mouvance dans les années 50 qui a refusé le consumérisme, qui a refusé ce que Miller appelait le cauchemar climatisé, et qui veut s'en extraire, et qui peut pas s'en extraire, et qui cherche par tous les moyens à multiplier les expériences, à rencontrer des gens, et là, tout d'un coup, il est tanké dans ce bus, et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de plus, quoi.
Mais justement, est-ce que ce que dit ce film, ce qu'il raconte en 2007, au moment de la sortie du film, c'est assez novateur, c'est assez nouveau, suffisamment pour vous interpeller?
Enfin,
vous, Cyril Dion, par exemple, je ne sais pas quel âge vous aviez en 2007. C'est un film qui vous marque, qui vous retourne, qui vous habite?
J'avais 28 ans. Ouais, moi ça m'a bouleversé la première fois. J'avais peur, là, en le revoyant, je l'ai revu il y a quelques jours. et je pensais que j'allais être déçu. Et en fait, ça m'a fait exactement la même chose que Sur la route. C'est-à-dire que j'ai lu Sur la route à 18 ans, ça m'a bouleversé, justement parce que j'avais ce sentiment d'enfermement sur lequel j'arrivais pas à mettre vraiment des mots. Et que là, tout d'un coup, il y avait des personnages qui vivaient ça, qui vivaient cette espèce de tentative d'émancipation. D'émancipation qui ne trouve jamais vraiment de... qui n'aboutit jamais. C'est comme Kerouac. Kerouac qui finit vieil alcoolo chez sa mère, avec des hippies qui campent en bas de chez lui pour lui dire « tu nous as influencés ». Lui, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ces gauchistes ? Il est devenu complètement conservateur ». Et là, il y a un truc un peu de ça. C'est-à-dire, il y a un truc, de toute façon, où qu'il aille, même s'il va jusqu'au bout de l'Alaska, il n'arrive pas à échapper à la civilisation. Et je trouve que c'est à la fois nouveau et pas nouveau. C'est-à-dire que c'est pas nouveau dans le sens où, encore une fois... ça a déjà été écrit, ce côté de la relation aux grands espaces, à la nature. On trouve ça dans le Natural Writing, il y avait Gary Snyder.
Mais c'était moins passé par le cinéma.
Et c'est assez nouveau parce qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui racontaient ça au cinéma et qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui essayaient de donner une empreinte écologiste à cette démarche-là.
Claire Nouvian.
Moi en fait je suis gênée je pense à plusieurs titres. Après j'ai vraiment gardé cette image lointaine de ce que ça m'a fait quand j'avais à peu près cet âge-là. Je suis un petit peu plus âgée que toi Cyril, mais
c'est marrant, en voyant le film la première fois, en le voyant, vous n'avez pas communié avec la nature,
pas
c'est
du pas tout.
Pour
alors,
vous
c'est, moi, je pense
c'est pas un appel de la forêt.
Pour moi c'est pas du tout un film sur la nature. C'est clairement un film sur l'intérieur, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un film sur une crise d'adolescence un peu tardive, mais aussi violente que le sont les crises tardives. Quand on cherche une rupture, on va au bout de soi-même. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est bien vu. Enfin, c'est bien campé, parce que clairement, on peut se mettre en danger, en fait. On peut se mettre en danger parce qu'on est tellement hors sol, en fait, quand on est là et qu'on est chargé de toute la violence de l'enfance et qu'il faut rentrer dans un monde adulte qu'on trouve peut-être encore plus violent et qu'on est dans cet espace compliqué. Mais en effet, c'est pour moi un film qui fait pas du tout honneur à la nature. Je pense qu'on ne peut pas non plus enlever de l'équation que c'est quand même un livre qui a été écrit par John Krakauer, qui a écrit donc Into the Wild, mais aussi Into Thin Air, qui est donc traduit comme Tragédie à l'Everest, et qui est un auteur... piégeant. C'est-à-dire que quand vous commencez John Krakauer, vous ne savez pas vous arrêter. Je comprends très bien ce que disait Sean Penn. C'est qu'on ne sait pas s'arrêter. En fait, c'est vraiment le livre, on tourne les pages, on est happé, et on a envie de savoir ce qui se passe. Et c'est une écriture sensationnaliste. Il prend toujours donc cet angle de prendre, par exemple, une expédition à l'Everest. Tout se passe mal, il n'y a que des morts, et pourtant les hommes vont au bout de leurs capacités, ils vont chercher leurs ressources, etc. Et en fait, je trouve ça toujours de la performance. Et moi, ce côté toujours performant de l'homme occidental qui prend la nature comme terrain de jeu et qui met la nature comme toile de fond de ses traversées, de ses émotions et de ses troubles très égocentriques, ça me gêne en fait. Je me serais plus sentie à l'aise, je pense, avec un film qui raconte la même épopée intérieure, c'est-à-dire l'épisode émotionnel, je trouve qu'il est sans doute transcrit avec plus de profondeur que ce que j'imagine de l'écriture de John Krakauer, qui est très bonne, très happante, mais très commerciale. Mais j'aurais préféré qu'il aille au bout de, je sais pas, à la Linhart, quoi, qu'il aille dans une usine et qu'il fasse qu'il aille dans une expérience sociale.
Il le fait, il
le fait aussi. Voilà. Et puis c'est pas ça le, enfin c'est pas ça le film.
Linhart, donc comme Robert Linhart avec l'établi, notamment. Là c'était en usine. Il le fait où dans les champs, par exemple.
Il le fait dans les champs. Il travaille. Alors c'est très drôle parce que c'est le moment le plus heureux en fait de son moment où il travaille. Il travaille dans une, on va dire dans une énorme exploitation agricole dans les grandes plaines américaines. Et il a jamais été aussi heureux. Alors qu'en fait on voit de la maçonneuse batteuse, des machines, c'est une exploitation de. Et c'est intéressant parce que ce film sortirait aujourd'hui, il pourrait plus faire cette scène. Alors que je sais pas, Les Moissons Sauvages de Terrence Malick, ça sortirait aujourd'hui, ce serait effectivement quelque chose où il y a un rapport différent à la nature, même dans la manière de la filmer. Alors je suis d'accord.
Là, ça serait perçu comme un éloge de quoi, de l'agriculture productiviste
non,
intensive.
Non, c'est ce que dit Claire Nouvian, ça est perçu comme la trajectoire d'un ado immature qui n'a grandi que dans les livres et dans papa maman et qui soudain se dit mais c'est quoi le vrai monde ? Et c'est vrai qu'il y a plus de vérité chez des gens qui travaillent la nature, même avec des machines, parce qu'ils travaillent en fait, ils le payent de leur corps, etc. etc. C'est des ouvriers des champs. Et il a une vraie expérience sociale et physique. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que le type qui l'amène à la limite, en fait, de la civilisation et qui lui file une paire de bottes, parce que cet abruti n'a même pas une paire de bottes, lui a mis dedans son numéro de téléphone. Et ça, c'est génial. Ça, c'est un vrai truc de quelqu'un qui connaît ce que c'est le grand froid, la nature. Il a mis son numéro de téléphone. Pourquoi? C'est pas juste au cas où il s'en sort. Il lui dit au cas où tu t'en sors, appelle-moi. C'est au cas où on le trouve, en fait. Mmh. Parce qu'il a déjà prévu que ce mec-là, il est allé au bout de quelque chose qui se fait pas. Et ça fait un film qui s'adresse à des gens qui sont comme lui. Donc c'est ça que moi je trouve intéressant. Quand moi je vais voir Terrence Malick, je vais voir Le Nouveau Monde, je suis bouleversé et ça ouvre mon regard à une nature qui existe peut-être plus comme ça et qui est sûrement disparue. Et le cinéma a cette qualité de zoo, c'est-à-dire qu'on vous montre des choses qui ont disparu. C'est le dernier endroit où voir de la nature presque, au fond, pour des gens qui sont incapables d'y aller physiquement. Et en même temps, ben donc là, Sean Penn lui fait un film qui s'adresse à des gens qui n'iront jamais en Alaska et qui leur fait sentir un tout petit truc. Donc la première fois, j'étais comme vous, j'étais même scandalisé par la bêtise du personnage. Et en même temps, sa crise, elle est pas si tardive. Il a 22 ans, c'est un gamin aux États-Unis. À 21 ans, ils sont majeurs, donc il est très très jeune quand même. Et ce qui m'a touché là, c'est qu'il traverse la vie des autres comme une comète. C'est-à-dire que lui, ce qui lui arrive, c'est idiot, jamais. Mais comme aux États-Unis, ils sont tous croyants, et quand ils voient passer quelqu'un d'aussi pur, il y a une présence un peu christique, il les métamorphose. C'est-à-dire que la bêtise qu'il a pour lui-même, elle rend les autres plus intelligents.
Alors voilà ce qu'en disent les critiques français à sa sortie. On va écouter Pierre Murat, il est assez d'accord avec vous, Claire Nouvian. On l'écoute, on est donc en 2008, côté français, Le Masque et la Plume.
Alors c'est un film post-hippie, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu ça il y a 30 ans. C'était le côté, on quitte la civilisation et on va vers la nature.
Mais donc... les hippies du film sont ringards, dans le
Ouais, mais non, mais ils sont gentils, en effet, voilà le problème.
Toujours rappeler qu'il a horreur de la nature.
J'ai horreur de la nature, tout le monde le sait. Le problème, c'est que c'est quand même un petit con, pardon de dire ça.
Et le mec?
Mais oui, le héros. Parce qu'il est illégitime. Il s'en va, une des raisons, c'est ça. Et finalement, il meurt... parce qu'il se trompe.
Mais faut pas raconter.
Ah non, bah, tout le monde le sait qu'il est mort.
Mais tout le monde le sait pas.
Mais si, enfin, il est mort parce qu'il se trompe de nourriture.
Dis pas comment il meurt.
Moi, qui sors toujours avant la fin des films pour ne pas être tenté de la raconter, eh bien, je ne le savais pas. Et tu me fais beaucoup de peine parce que je vois le film différemment maintenant. Il est beaucoup plus important que je ne le pensais.
Plus crétin. Plus crétin que ce type, c'est quand même difficile à trouver. Et alors, en plus, ça ne serait rien.
Crétin.
C'est un con total. Mais alors. Mais non, il est problème encore.
Idéaliste.
Le problème, c'est que.
Il est Tolstoï, c'est pour
bien,
ça que tu dis ça.
Oui,
c'est un utopiste.
Oui, eh ben, je veux bien m'intéresser à tous les utopistes du monde, à condition qu'ils me soient présentés de façon intéressante. Et alors là, il y a quand même un gros problème que vous avez tous dit, mais sans oser dire peut-être le fond de votre pensée, c'est que la mise en scène de Sean Penn, elle est nulle. Elle est prétentieuse. Ah non, mais j'aime beaucoup Sean Penn comme démocrate, comme homme.
Pierre, et ses opinions. Sean va m'écrire. Hein.
Ses opinions politiques.
Le week-end dans le Michigan,
ça va être très bien. Mais plus artificiel que cette mise en scène. Il y a des accélérés, il y a des ralentis, il y a des cadrages.
C'est du cinéma. Hein.
Oui, mais attends, on n'est pas forcé de faire des clips sous prétexte
d'excellence.
Ça ne serait pas signé Sean Penn. Tout le monde serait là en train de dire c'est trop long. C'est intéressant, c'est généreux, mais enfin, c'est totalement mal foutu.
Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Évidemment, c'est du cinéma. Mais y a quand même des principes de mise en scène qui tiennent extrêmement bien la route, à mon avis, et surtout des très, très belles images. Il y a quand même une prouesse technique qu'on peut ou qu'on devrait souligner. Tourner un film comme celui-ci, traverser les saisons, parcourir de tels territoires, on imagine aussi que pour l'équipe du tournage, ça a été quand même assez particulier. D'ailleurs, Éric Gauthier, le chef pop, le directeur de la photo, le raconte, hein, la particularité de ce tournage-là. Sur la question du regard que cette critique porte sur ce film en 2007, Cyril Dion, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus dire ça. Et peut-être qu'on ne regarderait plus du tout de la même manière ce film-là. Et on est quand même au tournant des années 2000 et on peut encore se moquer un peu de l'utopie ou de l'idéal de ce jeune homme. Aujourd'hui, je trouve qu'on le vivrait différemment.
Bah, moi, je l'ai déjà vu comme ça à l'époque, mais je trouve que c'est hyper bourgeois comme critique. C'est vraiment la critique d'un type déjà installé dans sa vie, qui regarde ça de haut en disant « mais qu'est-ce qu'il est bête, il a même pas compris que… » Mais c'est quand même un film sur, justement, une espèce de révolte. Et je suis pas complètement d'accord que c'est juste une crise d'ado, en fait. C'est quand même... comme encore une fois la Beat Generation, quelqu'un qui se sent profondément inadapté à ce monde-là et qui effectivement va chercher une sorte de paradis perdu, et la nature est une toile de fond de ce paradis perdu, c'est-à-dire qu'il imagine que de façon effectivement naïve qu'il va pouvoir retourner aux sources, et cette naïveté est particulièrement touchante et elle nous raconte quelque chose.
On est entre la fuite devient une quête en tout cas.
Oui, mais enfin je veux dire la quête elle est à la fois intérieure et puis elle est, comme je le disais tout à l'heure, une tentative de se désincarcérer. Mais ça raconte tellement de choses, de l'incapacité qu'on a aujourd'hui avec le peu d'apprentissage, le peu de connaissances du monde vivant, avec justement cette espèce de fantasme d'une sorte de nature un peu pure dans laquelle on pourrait aller, où en fait on peut juste aller se faire bouffer par un ours. Moi je me souviens, quand j'ai fait Animal, là, je discutais avec une biologiste qui s'appelle Liz Adley, et je lui ai dit, c'est quoi ta définition du sauvage? C'est quoi ta définition de to be into the wild? What is it to be into the wild? Et elle m'a dit, it's a place where I can be eaten. C'est un endroit où je peux me faire manger. C'est ça, en fait, la nature sauvage. Et c'est à ça que je reconnais que je suis dans le monde sauvage. Et d'une certaine manière, c'est à ça qu'il se confronte. C'est un endroit où il faut être capable de tuer un animal, de le découper avant qu'il y ait des mouches qui viennent pondre des larves et trouver le moyen de se nourrir, justement, sans l'aide de la civilisation. Mais ça, on ne sait pas le faire. Et il s'en rend compte trop tard. Mais en même temps, c'est bouleversant. Et c'est bouleversant pour nous de se rendre compte de ça.
Claire Nouvian, c'est intéressant aussi cette idée, comme le disait tout à l'heure Olivier Pourriol, qu'il part avec des livres. Il part avec beaucoup de livres et ce sera la référence. Et effectivement, le film est aussi jalonné d'extraits de citations littéraires. Il part notamment avec L'Appel de la forêt de Jack London. Il part aussi avec Walden, La vie dans les bois de Thoreau. Et ce qui est quand même décalé, c'est que ce sont des écrivains d'avant, des écrivains du siècle dernier, que finalement, ce film et le parcours de ce jeune homme va rendre contemporain. C'est des pensées du siècle d'avant qui vont paraître très modernes, comme une sorte de mythologie moderne au moment où le film sort.
Oui, mais c'est pour ça qu'après, de toute façon, heureusement qu'il n'y a pas une vérité et que la façon dont on a reçu le film, elle parle de nous et de ce qu'on a vécu aussi et de notre épaisseur de vie. Et c'est pour ça que moi, je vois là-dedans, non pas justement une dénonciation de la société de consommation, etc., mais le mal-être d'un individu qui a du mal à s'insérer dans la société en général, quelle qu'elle soit, au minimum depuis, on va dire, la révolution industrielle. Je ne sais pas s'il aurait été aussi malheureux sous l'Ancien Régime, peut-être encore plus, qui sait. Mais c'est surtout ça, en fait, c'est une inadéquation entre son parcours, pour moi, et de vie, les ruptures qu'on peut avoir à ces âges-là, qui sont quand même particulièrement violentes. Et en effet, je pense qu'on peut avoir des expériences qui nous mettent en fait en forme de dépression, et donc un peu désincarnés de nos émotions, un peu en lévitation. Et donc ça m'étonne pas que vous parliez tout à l'heure, Olivier, de la dimension un peu christique comme ça, parce que je pense que c'est typiquement ce qui se passe dans ce genre d'événement ontologique profond où on est en fait en train de vivre une rupture en soi, parce que la violence du monde, on la reçoit tellement gravement qu'elle peut nous tuer, et que la seule façon en fait de survivre, c'est de se mettre un petit peu à distance. Et pour moi, ce voyage qui passe par plusieurs épisodes, qui se termine dans ce grand décor sauvage et dangereux et de rencontre avec soi-même, c'est exactement ce voyage-là. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est un film qui n'est pas sur la nature, parce qu'un film sur la nature ou un rapport sur la nature, pour moi, le grand film sur la nature ou le rapport juste à la nature, celui qui me touche, moi, énormément, je vais vous dire, c'est Dier Suuzala. Vous l'avez vu, le magnifique, magnifique film de Kurosawa de 75 qui a pas pris une ride, que vous pouvez voir et revoir avec une émotion intense, et pour moi qui est tout en subtilité. Ça parle aussi d'un trappeur, mais un trappeur
un
trappeur de Sibérie, et qui est filmé donc par Kurosawa, et c'est une histoire vraie qui raconte qu'une expédition impériale russe en fait part au fin fond de la Sibérie et en péril devant la faim, le froid, les conditions. Et ils sont sauvés par ce trappeur avec lequel ils se sont liés. Et c'est un film où il y a très peu de paroles.
Et il y a beaucoup d'humour.
Et de l'humour et de la complicité. Ouais. Et en fait, une très belle amitié entre les humains et la nature. Et on voit cette expédition de reconnaissance du terrain, faite de cartographes, de topographes, etc., russes, qui est complètement bouleversée par la rencontre de cet homme. Et en fait, voilà, pour moi, c'est l'inverse du rapport, justement, américain à la nature, du rapport romantique, de on va projeter ce qu'on est sur la nature et sur ça, qui devient un tableau. Et en fait, pour moi, la nature, c'est pas un tableau. On est dedans. Elle n'est pas plus ou moins importante que nous. On fait partie de la nature. Et c'est ça l'expérience qui m'aurait... Enfin, en tout cas, moi, qui me touche plus, quoi.
T'as pas du tout répondu à la question, quoi.
Si, ça répond.
Sur les livres. Non, mais oui. Non, mais sur les livres et sur la continuité.
C'est intéressant de comprendre aussi, à travers ce que vous évoquez, Claire Nouvian, dans quelle histoire du cinéma ce film peut s'inscrire. C'est toujours Éric Gauthier, le directeur de la photo, qui raconte qu'avant le tournage, ils ont visionné avec Sean Penn un certain nombre de films pour essayer de trouver un langage commun. Et les films qu'ils ont regardés, alors lui, il avait apporté Jerry de Gus Van Sant, et donc avec cette idée, ce thème de la nature, et en même temps ce double jeu, presque on pourrait dire, d'une nature à la fois belle et hostile, à la fois refuge et en même temps dangereuse par certains côtés.
On est perdu, oui.
Et après, j'ai trouvé étonnant, c'est que Penn lui a mis en avant, Sean Penn, d'autres films, et notamment Apocalypse Now et Voyage au bout de l'enfer. Olivier Pourriol.
C'est mon film préféré, ça.
Voyage au bout de l'enfer.
Apocalypse.
Alors dans les deux cas, enfin,
je sais pas si vous retrouvez tous les trois justement un peu d'Apocalypse Now, cette idée du voyage au bout de l'enfer, en fait cette influence du cinéma américain des années 70 dans Into the Wild.
Ce qui moi me frappe, c'est que les grands espaces vides sont perçus comme vides à une condition, c'est qu'on vienne d'un milieu très occidental et très urbanisé, alors que c'est pas vide. Mmh. Si on est on est un trappeur, c'est tout sauf vide, parce qu'on sait de loin à la couleur de la glace, si on peut marcher dessus ou pas, pour dire le Monège, je sais pas combien de mots. Donc en fait, l'idée que c'est vide, c'est vraiment une vision de quelqu'un qui ne peut pas voir. Et alors, tout à l'heure, on parlait du 19e siècle. Moi, en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que le mot empathie avait été écrit au 19e siècle par un spécialiste de philosophie esthétique. Et au départ, l'empathie, ce n'est pas la relation entre deux humains, c'est la relation entre un être humain et n'importe quoi d'autre. Et ça peut être avec un paysage, ça peut être avec un vivant, ça peut être... Et dans les grands films où il y a un nouveau rapport à la nature qui est proposé, c'est un rapport d'empathie avec autre chose que des êtres humains. Et d'ailleurs, on voit des choses comme ça, on sent des choses comme ça. Et c'est ça qui est frappant, c'est que aujourd'hui, le mot empathie ne concerne que des relations interhumaines. Et au fond, c'est ce que nous montre ce film. Ce garçon, en fait, il n'est pas du tout en rupture avec la société. Il souffre de la relation de couple de ses parents. Et en le revoyant, ça m'a frappé. C'est simplement un enfant qui souffre du fait que ses parents n'ont pas su divorcer, que ses parents n'ont pas su se séparer, que ses parents se parlent mal, etc. Et par son absence, soudain, il a résolu la crise de couple de ses parents qui se sont souvenus de l'amour qu'ils avaient pour leur enfant. Et la dernière chose qu'il voit avant de mourir, et c'est vraiment la clôture du film, c'est qu'il se voit dans une scène imaginaire courir vers ses parents pour les embrasser. Et en même temps, au moment où on sait qu'il est mort, on voit la réaction de tous les gens qui l'ont aimé. Et donc, c'est vraiment un film là-dessus. Et s'il est dans un bus, il faut rappeler quand même le mot bus, ça vient de omnibus, ça veut dire pour tous. Il est au cœur du vide. Et au cœur du vide, il se réfugie dans un cocon qui est un omnibus, qui est une trace de civilisation, de service public, de transport en commun. Et il a besoin de mourir là, en fait. Et mourir là, c'est ça. Et donc, c'est pas du tout un film sur la nature. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas lui faire vraiment ses reproches, parce qu'il a eu besoin de s'éloigner. Il a eu besoin de ce vide. Oui. Il a eu besoin de cette impuissance, même. Il se fait même pas bouffer par l'ours. Il y a un ours qui le croise.
D'accord.
L'ours ne le considère même pas comme une proie, tellement il est étranger à la nature.
Il survit en descendant aussi les rapides en canoë du Colorado. Mais quand même, dire que c'est pas un film sur la nature, au secours, Cyril Dion, venez m'aider quand même un peu, parce que il y a certes un drame ou une trame familiale qui est importante. Après, on va écouter encore un extrait. Pour rappeler quand même ce qui déclenche chez lui l'envie de partir. Effectivement, la famille, mais pas que. Et puis, on en reparle juste après. Avec vous, Cyril Dion. Vous aurez la parole désormais.
So you're a leather now.
I'm a leather?
Yeah, a leather tramp. That's what they call the ones that hoof it on foot. Technically, we're rubber tramps.
Because we have a vehicle. You don't know.
Come on, please. Yeah, Alex could have a vehicle as well, but he decided to burn all of his money. And why did you do that?
I don't need money. Makes people cautious.
come on, Alex, got to be a little cautious. I mean, that book of yours is cool and everything, but you can't depend entirely on leaves and berries.
I don't know if you want to depend on much more than that.
Where are your mom and dad?
Living their lives somewhere.
You look like a loved kid. Be fair.
Fair?
You know what I mean.
I'll paraphrase Thoreau here. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth.
Dans cet extrait, notre personnage Chris, devenu Alex, Alex Supertramp, et dénonce le règne de l'argent. Il a donné le sien, ce que raconte l'extrait, il a brûlé les derniers billets qui lui restaient, il a abandonné sa vieille voiture. Il dénonce l'argent, le consumérisme, le carriérisme, le conformisme. Et il y a cette phrase de fin, cette phrase manifeste du film qui est de Thoreau justement, « Plutôt que l'amour, que l'argent, que la gloire, donne-moi la vérité ». Cyril Dion. Il y a quand même là le récit de la civilisation, de la société civilisée et le contre-récit qu'il a envie de se créer en partant au plus près de la nature et avec ce rêve d'Alaska qu'il peut avoir.
Oui, mais d'ailleurs, ce rêve d'Alaska ressemble un peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur Thoreau. C'est-à-dire que ça redonne une sorte de modernité à ces écrits-là, mais en fait, il y a une forme de continuité. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que Thoreau a inspiré Tolstoï, qui a inspiré Gandhi, qui a inspiré Pierre Rabhi, qui a inspiré
Cyril Dion.
José Bové, dans le truc de la désobéissance civile. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment une sorte de continuum. Et ce film, pour moi, s'inscrit vraiment dans une histoire qui est, comme je le disais tout à l'heure, jalonné à la fois de la Beat Generation, des hippies, comme le déplorait Pierre Murat.
Oui, à la décroissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu toute cette critique sur le mouvement de la décroissance qui était, c'est le retour à la bougie. Ouais. Ben finalement, c'est ce que propose ce film et ce parcours de ce héros-là. Il ouvre des possibles aussi.
Bah, complètement. C'est-à-dire que, pour moi, la résurgence actuelle d'une forme de recherche de sobriété, d'une forme de recherche de nouveaux récits justement qui viendraient remplacer ce mythe de gagner toujours plus, faire carrière, qui rejette profondément dans le film, ça ne s'est pas arrêté depuis qu'effectivement la civilisation industrielle a commencé à émerger en Occident. Et ce film est un petit caillou là-dedans, et ce qui est intéressant, c'est justement qu'il apporte de la complexité. Il a des moments quand même d'épiphanie dans la nature. On voit bien que il est fasciné par les océans, par les paysages, par les ciels, qui retrouve une forme de liberté, qu'il a besoin de se confronter, lui, de façon, ok, un peu adolescente, en cherchant ses limites, en regardant ce qu'il est capable de faire, en se prouvant qu'il peut descendre des canyons en rapide, en se prouvant qu'il peut aller jusqu'en Alaska, en se prouvant qu'il peut tuer un animal, qu'il peut chasser. Mais pour autant, il raconte justement quelque chose qui est une sorte d'impossible aujourd'hui. Et ce récit n'est pas achevé. Il a besoin d'être poursuivi. Il y a un film qui est sorti entre Into the Wild et maintenant, qui s'appelle Captain Fantastic, qui est aussi dans cette perspective-là, où là c'est Viggo Mortensen qui élève ses enfants dans la forêt, qui essaye de leur apprendre à chasser, à se débrouiller, qui leur fait lire tout un tas de livres de la même façon, qui leur fait lire Noam Chomsky, au lieu de faire Noël, ils font le Noam Chomsky Day, en disant qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule de faire une fête avec un nain ridicule avec une barbe et un costume, ou un des plus grands penseurs de l'humanité. Alors ils font, bah ok, le Noam Chomsky Day, ça a beaucoup plus de sens, ils s'offrent des trucs utiles, genre un couteau. Bon, tous ces films-là, tous ces livres-là essayent de percuter le récit de la société capitaliste, consumériste, pour essayer de le craqueler et de voir si quelque chose d'autre peut en sortir.
Invité, Cyril Dion, auteur, réalisateur, Claire Nouvian, militante écologique, fondatrice de l'association Bloom, Olivier Pourriol, philosophe, concepteur, fondateur des séances ciné, philo, mais également scénariste et auteur de BD. Voilà, on est ensemble pour quelques bonnes minutes encore. On vous parle aujourd'hui d'Into the Wild dans cette série des 10 films qui ont peut-être changé le monde, peut-être pas changé Claire Nouvian pour Into the Wild, mais en tout cas changé le regard de pas mal de spectateurs. Into the Wild de Sean Penn.
Alex.
France Culture.
I don't need to be on you about everything. You're doing a great job. I want to keep you on, and we all want to help you get to Alaska.
Les films qui ont changé le monde.
But you've got to start wearing socks.
Olivia Gesbert.
C'est une odyssée, comme le dit le protagoniste, le héros. D'ailleurs, est-ce un héros? Ce sera la question qui va suivre. Une odyssée, comme il la nomme, une errance, une quête quasi mystique. Une révolution spirituelle, entend-on aussi dans le film. En tout cas, c'est un film sur la disparition. C'est intéressant aussi pour cette identité du personnage. Il va essayer d'effacer ses traces avec cette idée, peut-être, de mieux renaître autrement. Une quête de vérité, voilà ce qui est dit aussi. Après avoir découvert le secret de ses parents, ce premier mariage de son père, ce demi-frère caché et abandonné, il se sent trahi, notre héros. Il abhorre le mensonge, il cherche la vérité par un retour aux sources, à sa source, comme nous dit la voix off de sa sœur, qui tente de comprendre le silence de son frère, sa fuite ou sa quête. Alors que cherchait-il précisément? On écoute Sean Penn.
You know, there's no such thing as a place anymore that's not on the map.
Vous savez, il n'existe plus tellement d'endroits qui ne sont pas représentés sur une carte. Donc comment trouvez-vous un endroit alors que vous êtes seul dans un désert non cartographié? Oubliez la carte. Walt McCandless, le père de Chris, m'a dit un jour. Chris ne voulait pas brûler la maison, il voulait juste la rejeter. Vous savez, les chasseurs qui choisissent de partir avec un arc et des flèches plutôt qu'un fusil, c'est ça le genre de défi qu'il a choisi. C'est ce qu'il avait besoin de faire, et loin de moi l'idée de le juger.
Olivier Pourriol, est-ce que vous avez la même lecture que Sean Penn de cette quête, de cette recherche?
Je pense que en faisant ce film, Sean Penn est passé justement de l'idée peut-être illusoire, même s'il est nécessaire, de changer le monde. C'est-à-dire un individu ne peut pas changer le monde, mais un individu peut changer de regard. Et je pense que quelqu'un comme Sean Penn, on a eu des idées de ses phrases, etc., des démons qui l'ont habité, parce qu'il en parle simplement. En faisant un film comme ça, c'est une manière de réduction de ce qu'on peut faire dans une vie d'homme ou de femme. Et plutôt que changer le monde, déjà en faisant un film, on peut peut-être changer le regard qu'on a soi-même sur le monde, proposer aux gens qui regardent le film de changer de regard pour commencer. Et Michel Serres, dans un livre qui s'appelle Le Malpropre, disait que lorsque un capitaine de tanker dégaze ou de pétrolier dégaze en pleine mer, il dit que c'est un problème esthétique. C'est que pour faire ça, il faut ne pas avoir regardé la mer. Il faut être incapable de trouver quelque chose de beau. Donc je me dis, c'est un premier pas dans la rééducation. On est gavé d'images, on est entouré d'écrans, etc. Quelqu'un qui nous propose c'est la dernière chose qu'il dit quand même à l'homme qui veut l'adopter. Il dit, tu sais, tu veux m'adopter, mais en fait, il n'y a pas que les relations humaines qui comptent. J'ai parlé tout à l'heure, il dit, change de regard. Et si tu changes de regard, tu vas pouvoir changer ta vie. En fait, il parle à un vieillard, il dit, tu as encore beaucoup de temps à vivre. Ne serait-ce que ça. En fait, pour moi, c'est un film où, en traversant la vie des autres, il leur a rendu des possibilités. Lui, il en est mort, bien sûr, mais tous les autres, soudain, ils changent de regard, ils voient leur vie avec des nouveaux possibles.
Mais aussi parce que lui...
Y compris ses parents.
Ouais, mais parce que lui incarne cette espèce de liberté, justement, qui sort du cadre. Eux, ils sont tous enfermés dans une vie.
On a entendu son père parler, c'est son vrai père, enfin cité par Sean Penn. Il dit, il voulait pas brûler la maison, il avait besoin de partir avec un arc et des flèches, sauf qu'il, dans le film, il est parti avec un flingue. Donc il y avait un petit truc inadapté dans l'histoire du personnage, c'est qu'il part avec que des outils civilisationnels. Et d'ailleurs, quand il tue cet animal qu'il est incapable de conserver et incapable de consommer, et il meurt de pas savoir chasser quand même, parce qu'il a une arme qui est disproportionnée avec ce que lui peut faire.
C'est un élan
C'est un élan et c'est un élan qu'il a.
Et pour lui, ce sera la grande tragédie de sa vie, telle qu'il le gravera dans le marbre, Claire Nouvian.
D'abord, je veux bien rectifier que je ne pense pas du tout qu'il y a de bêtises, donc je me dissocie totalement de ce qui a été dit. Mais totalement. Il n'y a aucune bêtise, c'est pas ça le sujet. C'est que je pense qu'on oublie. En fait, on est vieux là, nous tous, là, tous les quatre autour de la table, on oublie à quel point c'est difficile de trouver sa place dans le monde. Quand en plus on vient, et surtout sans doute quand on vient d'une famille mouvementée. En gros, c'est un problème de théorie de l'attachement, en fait. C'est vraiment se dire, est-ce qu'on a le bon attachement? Et quand on n'a pas le bon attachement, mais quelle violence ce passage à l'âge adulte, en fait. Quelle violence de trouver le sens de tout ça, parce qu'on est encore relié en effet à la pureté de son cœur, au besoin d'amour, au besoin d'existence, au besoin de lien, et que le monde qu'on nous donne en pâture, c'est pas un monde qui nous fait rêver. Donc je pense que de ce point de vue-là, je trouve ça très juste, très touchant, très touchant. Mais j'ai peur que ça... Enfin, je me disais, est-ce que ça donne pas aussi des mauvaises idées à certains jeunes? Non, mais en se disant, mais finalement... Oui, mais en fait, de partir, de se mettre en danger, parce que c'est vrai qu'il y a un côté esthétique comme ça dans cette épopée qui est mise en image, et on se dit, bah, ça se termine mal, mais bon, la vie va aller peut-être d'être vécue, si en plus ça a réconcilié ses parents, je sais pas, j'avais oublié cet aspect-là. Mais alors qu'en fait, il y a une autre façon de traverser cette tempête émotionnelle de la vie. Il y a du lien, justement, donc ce que vous disiez tout à l'heure dans la dernière phrase, et en fait, voilà, je pense qu'il y a ça m'évoque ça. Et ça m'évoque un autre, alors ma plus belle lecture de 2022, moi je l'ai toujours en décalé, mais c'était Croire aux fauves, le livre de Nastassia Martin. C'est
qui est anthropologue.
Merveille. Ouais. Là, on n'est pas dans le rapport à soi, on est dans le rapport à la nature et dans la place qu'on a ou qu'on n'a pas, dans le côté un peu comme d'Escola, de se dire dans quelle frange on appartient, comment ça rentre ou ça rentre pas, est-ce qu'on est dedans, est-ce que c'est en nous, on ne sait plus trop. Et j'ai trouvé que ce livre était sublime et très troublant.
Complètement. Mais c'est aussi le livre d'une anthropologue beaucoup plus âgée, et c'est ce que vous distinguez d'ailleurs tout à fait dans votre réponse entre ce jeune Américain en rupture ou en divorce avec sa famille, qui a 20 ans, qui est tout juste diplômé, qui finalement décide qu'il ira pas à Harvard et qui veut aller communier avec la nature, et la démarche de l'anthropologue. Il y a peut-être cette différence là. Et ce que je trouve intéressant, c'est John Krakauer, dont vous avez parlé, Claire Nouvian, tout à l'heure, qui est l'auteur du livre, le journaliste américain qui a d'ailleurs refait l'enquête pour comprendre ce qui lui était arrivé. Il dit, comme vous, qu'il y a quelque part dans cette prise de risque comme un rite de passage. Et ça nous rappelle qu'on a peut-être tous eu un jour 20 ans et que c'est aussi la démarche d'un garçon de cet âge-là.
Quand j'avais 23 ans, j'étais jeune et téméraire et j'ai fait un périple stupide et très similaire en Alaska. Je voulais franchir la calotte glaciaire Stikine pour gravir la montagne Devil's Thumb. Et j'ai été très chanceux de survivre. Si j'étais décédé durant ce voyage, les gens auraient dit de moi ce qu'ils disent de Chris, que j'avais des volontés suicidaires. Les gens disent qu'ils voulaient se tuer, mais je ne pense pas. C'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas rationnel. Mais je croyais que si je me fixais un défi assez haut et que je le relevais, alors tout irait bien après ça. Ça n'a aucun sens, mais j'étais persuadé de ça. C'est devenir riche d'un point de vue spirituel. Vous vous sentez tellement bien après avoir accompli quelque chose de si difficile. C'est une sorte de rite de passage que l'on retrouve dans beaucoup de cultures. La prise de risque, c'est quelque chose que des jeunes gens sentent qu'ils doivent accomplir comme un devoir.
Voilà, la prise de risque, le rite de passage, le rite initiatique, Cyril Dion.
Non mais, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on ne disqualifie pas ça. C'est-à-dire qu'on a... Soit on est un peu plus vieux, moi j'ai l'impression d'être quand même encore très jeune, mais...
Non.
Non.
Mais tu peux te reconnaître.
Je suis jeune à l'intérieur.
C'est ça.
Je ne se vois pas comme ça. Mais non, mais de ne pas disqualifier cet élan-là, parce qu'en fait, on en a besoin. Moi, c'est ce que je continue à chercher, parce que il y a un moment quand même, on s'installe dans un truc et on finit par regarder les trucs avec une certaine distance, en rationalisant, en disant gna gna gna, voilà, c'est comme ça. Et puis et cet élan là de dire je refuse que le monde soit comme ça, je refuse de me conformer, je veux le transformer justement, ou je veux être autre chose. Soit il peut être maladroit et il peut mal finir. Là, en l'occurrence, ça a mal fini. Mais cette énergie-là, il faut qu'elle perdure dans la vie. Et je trouve que ce film a quelque chose... Moi, j'avais peur de beaucoup moins l'aimer en le revoyant maintenant qu'à l'époque. Et j'avais eu la même trouille avec Sur la route. Quand je l'ai relu 20 ans plus tard, je me suis dit « ça doit être un truc d'ado, en fait ». Mais c'est pas un truc d'ado. C'est un truc qui vient ranimer ça. Et ça a besoin d'être animé chez les adultes. Et si on a un peu de sagesse pour venir matiner cet élan d'action un peu moins dangereuses ou qui peuvent mal finir, tant mieux. Mais N'éteignons pas ce feu, quoi.
Voilà, alors Sean Penn dit que c'est aussi, avec sa mort, on aura compris qu'il meurt à la fin, donc ça a été dit et redit. Pour lui, il y voit, Sean Penn, une sorte d'accomplissement hein, dans ce parcours du personnage, du héros, et une façon d'atteindre la sagesse à cet âge-là seulement, 20 ans, sans aller jusqu'à cette idée de cette figure sacrificielle que serait le Christ devenu Alex au cours de ce voyage, de ces 2 ans hein, de route d'abord, parce que c'est quand même un road movie avant d'être le moment en Alaska où il va vivre là toutes les saisons et les voir passer et ne pas en revenir. Il y a cette idée, et c'est en ça où peut-être, je ne sais pas, Claire Nouvian, Olivier Pourriol, le film n'est pas si simple que ça. Il y a quand même un héros assez ambigu, assez paradoxal. C'est vrai qu'il est à la fois égoïste, individualiste, jusqu'au boutiste. Il va rien sauver, il va pas sauver la planète, mais il va pas se sauver lui-même non plus. Et en même temps, comme vous le dites, il montre que ce monde est habitable autrement, qu'il y a peut-être une autre manière de vivre. En tout cas, il l'espère, et il est dans cette quête d'absolu et cette quête de liberté, qui est plutôt saine ou positive aussi aujourd'hui, non ?
Mais je pense pas qu'il nous montre une autre façon de faire. Il nous montre que c'est un être hypersensible qui est inadapté au monde.
Mais non, pas que.
Mais en fait, on est à cet âge-là, on est. Mais oui, mais dans cette quête-là, en fait, quand t'es inadapté, tu peux à cet âge-là te mettre en péril. Et en fait, il y a des façons de traverser ces crises, il y a des aides.
Et oui, mais tu juges c'est pas un personnage. Mais c'est pas un personnage. Oui,
non, c'est pas un jeu.
Il a le droit de faire comme ça.
Mais surtout, il est pas en dépression.
Et puis il est heureux sur la route, dans son truc d'errance, d'aller d'une communauté à une autre. Il recrée des communautés.
Oui, mais quelle tristesse qu'il meurt si jeune, alors qu'en fait, il a peut-être à apporter sa beauté, sa sensibilité au monde.
En fait, ce que disait Sean Penn, il parle de rite de passage à l'âge adulte. Et dans les sociétés, on va dire traditionnelles, mais ça va jusqu'au, je sais pas, l'Allemagne du 19e siècle où en Prusse, les jeunes, ils se défient en duel et ils portaient la trace du fait d'avoir risqué leur vie. Alors bon, évidemment, il y a ce philosophe allemand que tout le monde lit dans le texte, Hegel, et puis il y a des gens qui le traduisent quand même, et il y a Jean Hippolyte qui disait de lui, c'est un grand commentateur de Hegel, il disait « Seule une vie risquée est une vie fondée. » Il y a un moment où dans une vie, alors il dit d'homme, hein, il ne dit pas de femme, parce qu'en fait c'est un truc plutôt réservé à la gent masculine dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être pour ça que ça, c'est en déshérence. Le rite de passage à l'âge adulte, c'est le jeune mâle. Une société lui prépare un rite initiatique où il va risquer sa vie, où va vraiment risquer sa vie, de manière à porter ensuite la marque du fait qu'il a survécu, et c'est une marque qu'il intègre dans le groupe. Et pourquoi les jeunes maintenant se mettent en danger ? Parce que c'est un besoin humain, ça s'appelle la négativité, on a besoin de montrer qu'on est plus que la nature, qu'on est autre chose, parce qu'on sent qu'on est ce feu intérieur, en fait, il t'oblige à mettre ta vie en danger. Et si tu ne peux pas le faire dans un cadre qui est prévu par la société, tu vas le faire n'importe comment. Or, dans une société ultra sécurisée, comme l'est la société américaine, avec les parents qui te prévoient déjà ton voyage, ton machin, qui te mettent l'argent de côté pour toi, tu peux plus risquer ta vie pour rien, en fait. Donc, tu es obligé d'aller le faire tout seul, n'importe comment. Et c'est ce qu'on voit dans ce film, en fait. C'est un rite initiatique qu'il se crée pour lui-même, en tournant le dos à ses parents, alors que dans les sociétés, on va dire, plus structurées, qui comprennent qu'il faut juguler, en fait, cette tentation inévitable, s'il n'y a plus de rite initiatique, il y a du vrai danger. Et donc, en fait, ça ne raconte pas une histoire juste d'une autre manière de vivre la nature, c'est comment nier la nature en soi, parce que c'est une étape nécessaire pour ensuite, si on veut élargir son monde, il faut passer par ça. Donc, je ne pense pas que c'est égoïste, je pense que c'est nécessaire.
Exactement. C'est pas du tout égoïste, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'égoïsme, ni avec la bêtise.
Ouais, c'est nécessaire.
Alors, le absolument. Point de vue de la sœur.
Qu'est-ce qu'elle dit, sa sœur
ben voilà. Le point de vue de la sœur de Chris McCandless, qui a donc donné ses mots, prêté ses mots en partie à une des 2 voix off de ce film, Into the Wild de Sean Penn. On l'écoute.
If I had to bet my life on whether my brother was happy on the day that he died, I would tell you that he was. Now, he wasn't happy to be dying.
Je parierais ma vie sur le fait que mon frère était heureux le jour où il est mort.
He was happy.
Il n'était pas heureux de mourir. Il était heureux parce qu'il avait passé sa vie à faire tout ce qu'il pouvait pour être vivant et pas juste vivre.
Not just be alive.
Il a fait plus à 24 ans que la plupart des gens à 90 ans.
He got more out of his 24 years than most people get if they live to be 90.
Olivier Pourriol, elle dit comme vous, en fait.
Ben, je suis la sœur de ce personnage.
Je suis sa sœur.
Non, mais c'est ça. Il a réussi à accomplir quelque chose. Bon, après, c'est sa sœur, donc elle est obligée d'idéaliser ce qu'il a fait.
De rationaliser un peu.
Mais on peut admirer, en fait. Moi, je trouve ça admirable.
De donner du sens, en tout cas.
Mais de risquer sa vie pour commencer. Risquer sa vie pour rien. Aujourd'hui, on pense qu'il faut risquer sa vie pour quelque chose. Risquer sa vie pour rien, c'est ça, l'élan vraiment humain. Si, c'est pour rien. C'est pour le le plaisir en fait de fonder sa vie.
Bah pour la quête d'absolu, de sens, ouais. Pour se donner les moyens de vivre une expérience d'une intensité et d'une forme de, je sais pas, de transcender le contexte dans lequel on vit. Et c'est pas rien quand même.
Alors le problème, c'est et c'est quand même une question qui se pose pour conclure, pour faire un film sur la nature, même si vous le considérez pas forcément tous les trois comme ça, pour faire un grand film. Je croyais que vous étiez de mon côté, Cyril Dion. Pour faire un grand film écolo, comme Sean Penn a pensé le faire ou a voulu le faire, et ben la difficulté, c'est que pour ça, il a fallu prendre plus de 40 avions pendant le tournage, traverser une petite dizaine d'états différents. Il a fallu mobiliser des grues, plus d'une centaine de techniciens, etc. Bref, le film a quand même été techniquement et technologiquement assez énergivore dans le principe. Mais surtout, ce qui est toujours intéressant avec ces films à message, parce que c'est le cas, qui veulent délivrer aussi une parole telle que Sean Penn l'entendait sur les grands espaces, et qu'il y a toujours un effet boomerang, hein, et que du coup on imagine que ce petit coin d'Alaska où va se réfugier le héros est aujourd'hui au cœur de la carte de tous les tours opérateurs. Faut se méfier avant de faire des films, non, Cyril Dion?
Faut se méfier avant de faire des films.
Et avant de montrer des zones un peu sauvages.
Oui. Ouais. Non, et puis il est intéressant de réfléchir à toutes les problématiques écologiques de la fabrication du film dès l'écriture. C'est-à-dire de se dire, est-ce que j'ai besoin d'aller dans je ne sais combien d'états? Est-ce que je peux pas le tricher? Et en fait, on peut raconter la même histoire sans être dans une forme de vraisemblance absolue de ça a été vraiment tourné dans l'Indiana et du machin. C'est ce qu'on fait des cinéastes pendant des décennies dans des studios.
Mais ce film a 15 ans. Claire Nouvian. Est-ce que j'ose vous donner le mot de la fin?
En fait, si on veut expérimenter la vie sauvage, là, en fait,
il suffit d'aller en bas de chez soi.
En fait, c'est la France, hein, vous allez dans la Drôme provençale, vous allez dans le Vercors.
L'Auvergne.
L'Auvergne, c'est extraordinairement.
Vous n'y allez pas en voiture?
Sauvage. Eh ben, train, tout le long. Et en fait, c'est juste là, à nos portes, en fait. Donc, on peut, en tout cas, aller au cœur de la nature, hein, sans impact écologique.
Olivier Pourriol, la grande question philosophique quand même de ce film, il y en a une ou pas?
Il y en a une, mais c'est Werner Herzog qui répond dans son film Grizzly Man, où il monte un jeune garçon qui a passé 10 saisons dans une zone avec que des grizzlies, en pensant être leur ami, les protéger, etc. C'est fini bouffé par un ours, mais par un ours qu'il ne connaissait pas à sa décharge. Et pendant tout le film, on se demande, comme Werner Herzog, si ce type est un illuminé, parce qu'en fait, aller protéger le monde sauvage, c'est le polluer, en fait, c'est le salir, c'est le nier, c'est ne pas respecter les humains qui, eux, savent le fréquenter. Donc c'est transgressé, et la nature, elle est profondément indifférente. Il ne faut pas oublier ce petit détail.
Dans Into the Wild, Christopher McCandless, dans le film, devient Alexander Supertramp, lecture de Guillaume Gallienne, d'un extrait du livre qui a inspiré le film de Sean Penn, traduit et édité en France aux Presses de la Cité.
Depuis longtemps, l'Alaska attire comme un aimant les rêveurs et les désaxés qui s'imaginent que l'immensité immaculée de la dernière terre vierge accueillera les débris de leur vie. En réalité, elle est impitoyable et n'a que faire des désirs et des espoirs.
C'était Into the Wild de Sean Penn, un film de 2007 dans la série des 10 films qui ont changé le monde, avec nos trois invités que je remercie tout particulièrement d'être venus se prêter au jeu de cette discussion de cinéphiles, Cyril Dion, Claire Nouvian et Olivier Pourriol. Merci beaucoup à tous les trois. Un grand merci à l'équipe qui a préparé, programmé et réalisé cette émission, à Sophie-Catherine Gallet et Félicie Faugère à la réalisation. Merci beaucoup à Élise Leu à la technique. Je vous rappelle que toute cette série est à retrouver en podcast sur le site et l'appli radiofrance.fr.